Martine Saint-Pierre. Madame Saint-Pierre, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi. On l'apprécie tellement. Madame Saint-Pierre, vous logez dans quel camp? Est-ce que vous logez dans le camp de Pablo Rodriguez qui mentionne « Je suis prêt à continuer » ou dans le camp de votre ex-collègue Lucie Charlebois qui dit « Pablo Rodriguez doit quitter » ?
Moi, je me range dans le camp de ceux et celles qui disent que Pablo Rodriguez doit réfléchir, analyser la situation, voir quelles sont les portes pour lui, les portes qui peuvent de sortie, parce que comment peut-il sortir de cette tempête-là? Moi, je cherche la solution, puis je n'en vois pas. Alors, il y a une réflexion à faire pour le bien des intérêts supérieurs du parti. Je l'invite à vraiment, vraiment prendre un pas de recul, puis à regarder quelles sont les options. Puis, je pense que ce qui va se produire au cours des prochaines heures, des prochains jours, ça va être encore plus de pression sur ses épaules. Ça va s'accentuer, ce mouvement-là. Le mouvement est loin de s'essouffler là, pour lui demander de partir.
Est-ce vrai de dire que le Parti libéral, à l'heure actuelle, est plus, puis là je vais prendre ce terme-là, plus magané qu'au mois de juin, donc c'est-à-dire vraiment plus en problématique?
Le Parti libéral du Québec, lorsqu'on regarde les sondages, avait quand même réussi à faire certains progrès. C'était, il n'y avait pas d'effet Pablo, là, on ne le voyait pas, mais on voyait un certain effet. Il y a eu un sondage léger qui donnait 27%, mais le dernier, celui de la semaine dernière, a fait chuter le parti à 20%. Et je pense que c'est ça qui a inquiété énormément les militants, les militantes et ceux qui regardent la situation, parce que c'est là c'est le parti, finalement, qui écope dans les sondages. Et ça, bien sûr, ça fait en sorte que ça vient plomber le leadership du chef. Alors, c'est clair que le Parti libéral du Québec est quand même un parti qui est en reconstruction. Ça allait quand même assez bien. Il y avait des mains qui levaient la main pour être candidat. Et ça, pour une campagne électorale qui est à nos portes, c'est quand même majeur. Là, le parti, il est paralysé avec cette histoire-là. C'est ça le problème.
Et du point de vue humain, là, pour Pablo Rodriguez, il n'est accusé de rien pour l'instant. C'est beaucoup des allégations. Il n'y a pas quelque chose d'injuste à ce qu'ils doivent se retirer alors qu'il n'y a absolument rien qui est prouvé pour l'instant?
Oui, c'est injuste. Son intégrité, moi, j'ai confiance en son intégrité. Je ne remets absolument pas cela en question. Mais qui l'a entouré dans sa campagne au leadership? Qu'est-ce que ces personnes-là ont fait? Et je fais aussi le parallèle. Lorsqu'on est ministre, on est imputable. Hein? Et même si, puis on l'a vu dans le dossier Saclic, là, même si on n'est pas au courant de ce qui s'est passé, puis que comment les fonctionnaires ont travaillé ou l'entourage du cabinet, n'en demeure pas moins qu'à la fin de la journée, c'est le ministre qui est imputable. Et c'est ça aussi, je pense, la grande question qui se pose au sujet du leadership de Pablo Rodriguez. Est-ce qu'il peut continuer avec ce nuage-là aussi de l'UPAC, et même si l'UPAC a fait beaucoup de fausses, a fait des enquêtes qui n'ont rien donné là dans le passé, pensant m'assurer, pensant Guy Ouellet, il y a quand même une enquête. Et ça, ça vient vraiment plomber le leadership de Pablo. Même si Pablo n'a rien à se reprocher, il y a quand même ce nuage-là au-dessus de la tête. Là.
Je suis tellement d'accord avec vous parce que j'ai critiqué François Bonnardel et Geneviève Guilbeault dans le dossier Saclic, j'ai pas le choix de critiquer le leadership de Pablo Rodriguez. Plusieurs militants, anciens députés, même anciens ministres, selon ce qu'on entend circuler dans les médias, déposerait une lettre officielle à Pablo Rodriguez pour lui demander de se retirer. Est-ce que vous allez signer cette lettre-là? Faites-vous partie de ce mouvement-là?
Non, je ne signerai pas la lettre parce que moi, depuis que j'ai quitté la politique en 2022, j'essaie de prendre un peu de recul. Je m'intéresse beaucoup à faire de l'analyse politique. Alors, je demeure évidemment, la couleur est claire, là, je demeure vraiment libérale, mais j'essaie de prendre un pas de recul, de me lever au-dessus de la situation pour faire des analyses. Alors, je n'ai pas voulu signer la lettre. La lettre, je l'ai lue, je l'ai vue. Je trouve que le vocabulaire est quand même dur là pour Pablo Rodriguez, mais c'est les gens qui vont signer, semble-t-il, sont nombreuses, et ce sont des gens qui ont à cœur les intérêts supérieurs du parti, et c'est ça qui doit compter le plus, les intérêts supérieurs du parti, l'institution elle-même. Il faut que on prenne conscience que ce parti-là, il a plus de 100 ans, là, 150 ans d'existence, et c'est un parti qui est bien enraciné au Québec, et il ne peut pas se laisser une situation comme celle-là pourrir très longtemps. Alors, c'est ça la situation aujourd'hui. La lettre, à ce qu'on me dit, selon les informations que j'ai pu recueillir ce matin, serait diffusée cet après-midi. Alors, j'ai pas de confirmation, mais c'est le plan de match de diffuser la lettre cet après-midi. Et il y a beaucoup de noms, des noms très, des personnes influentes, des personnes qui ont milité, des personnes qui ont été très importantes.
Êtes-vous capable de nous en dire?
Non, je ne vous donnerai pas de nom parce que je n'ai pas l'autorisation de ces personnes-là de donner leur nom, mais de ce que je comprends et ce que j'ai eu comme information, il va y avoir des noms assez costauds. Mais ça, évidemment, il faut confirmer tout ça lorsqu'on va vraiment voir. Moi, les signatures, je ne les ai pas vues, là. C'est des informations qui me sont venues au téléphone. Il y aura une autre étape aussi qui semble être envisagée d'après ce que je comprends. Il y aurait des personnes qui seraient mandatées pour rencontrer personnellement le chef. Et discuter avec lui de son avenir.
Là, parlons justement d'avenir. Si jamais M. Rodriguez était vraiment poussé et prenait la décision de quitter, vous avez une vaste expérience, vous avez servi sous deux premiers ministres, M. Charest, M. Couillard. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir de quoi le Parti libéral aurait besoin comme style de leadership. De quel genre de chef le Parti libéral a besoin pour faire campagne en 2026 et faire face à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est premier dans les sondages depuis assez longtemps maintenant, là?
Oui, alors évidemment, les sondages portent à croire que c'est le Parti québécois qui va prendre le pouvoir aux prochaines élections, mais on sait que c'est une éternité quand même, là, 6 mois en politique, comme disait M. Bourassa, mais tout porte à croire que le Parti québécois va prendre la tête du gouvernement. Alors ça veut dire qu'il y a un référendum qui va s'en venir après, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon ne recule pas sur cette question de tenir un référendum. Alors ça prend un chef qui a une vision du Québec, qui est capable de défendre le camp, ce qui va être le camp du non, s'il ne devient pas premier ministre. Moi, je vois un chef qui est très enraciné dans les régions du Québec, parce que les régions ont vraiment besoin d'être entendues, ce que le gouvernement de la CAQ ne fait pas.
Attendez, enraciné dans les régions, j'en connais un qui vient de Roberval, s'appelle Carl Blackburn. Ça se pourrait-tu que vous le voyez dans votre soupe?
Ça pourrait être une possibilité, mais moi, je n'ai pas donné d'appui à aucun chef lors de la dernière campagne au leadership, mais on me demande la question, c'est quel est le profil? Ça devrait être un profil de quelqu'un qui aussi est bien au courant de la situation financière, des finances et de comment développer l'économie du Québec. Alors là, moi, c'est un peu le modèle que je vois, quelqu'un qui est capable vraiment de faire la démonstration que le Québec est mieux dans la Fédération canadienne qu'à l'extérieur de la Fédération canadienne. Maintenant, il faut qu'il y ait une décision qui se prenne. Si Pablo Rodriguez continue et persiste, bien, il va falloir que le parti en prenne acte. S'il décide de se retirer pour les intérêts supérieurs du parti, ben là, est-ce que le parti devrait avoir une course? Là, on va perdre du temps, là, parce que pendant une course, on s'organise pas pour la campagne électorale, on va pas chercher des nouvelles candidatures, on n'est pas capable de se préparer adéquatement.
On parle à l'interne et non à l'externe.
Le programme du parti et tout ça. Alors, il faudrait idéalement que ce soit un couronnement.
On parle à l'interne aussi plutôt qu'à l'externe à ce moment-là. Ce que vous avez décrit, c'est presque tout ce que réclament les partis politiques en ce moment, peut-être pas le Parti québécois, puisque vous avez parlé de garder le Québec au sein du Canada. Mais par contre, est-ce que ce serait pas d'envoyer quelqu'un à l'abattoir pour le prochain leader de ce parti-là? Est-ce qu'on devrait attendre, par exemple, de trouver une personne compétente suite aux prochaines élections, puisque le parti est aussi entaché, pas juste le leader du parti en ce moment?
Moi, je pense qu'il faut qu'on se mette en mode préélectoral et qu'on ait une équipe est forte. Et ça veut pas dire, ça veut dire ça, qu'il y a peut-être une possibilité d'aller chercher une victoire. Vous allez me dire peut-être que rêve en couleur, mais si on a une candidature très forte, on est peut-être capable d'aller chercher un pouvoir, ou peut-être capable aussi de forcer d'avoir un gouvernement, que le Parti québécois devienne un gouvernement minoritaire. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Mais moi, ce que je dis, c'est que attendre, à mon avis, attendre, ce serait une erreur. Si cette personne-là, si on est capable d'aller en campagne électorale avec une équipe forte, avec des bonnes candidatures, des gens qui sont crédibles au sein de leur communauté ou qui ont une crédibilité à l'échelle du Québec, ben il y a quand même capable de faire des gains en termes de sièges. Le parti a quand même, on regarde les sondages aujourd'hui, puis l'agrégateur de Québec 125 donne quand même une trentaine de comtés. Donc il y a quand même une base qui est là. Il s'agit de faire grandir cette base-là. Mais pour ça, il faut se préparer, puis il faut avoir une campagne électorale solide, avec un programme solide, un programme qui va faire rêver les Québécois. Et ça, c'est ça qui manque aussi. On n'a pas de programme, il n'y a pas de programme au parti, il n'y a pas d'idées qui font rêver les Québécois. Et ça, il va falloir que le parti se penche là-dessus assez rapidement pour trouver des sujets, des projets qui vont dire, oh, je me reconnais là-dedans, je me vois là-dedans, je vois l'avenir de mes enfants dans ce projet-là. Et ça, on n'a pas ça.
Christine Saint-Pierre est ex-ministre libérale au niveau de la culture, des communications et de la condition féminine. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre, de nous avoir accordé votre temps précieux aujourd'hui, et on vous souhaite une bonne continuité.
Merci, bonne émission à vous deux.
Merci, au plaisir de se reparler. C'était Christine Saint-Pierre, ex-ministre libérale, qui, on comprend très bien, ne veut plus de Pablo Rodriguez comme chef, même s'il dit « je l'invite à la réflexion ». Ben, elle invite à la réflexion. La porte est là, mon Pablo. Ouvre-la.
Ouais. Non, c'est ça. Puis sa voix se joint à beaucoup d'autres voix. Là.
Vraiment.
Et on s'entend que c'est... Je pense que M. Rodriguez, ça va avoir beaucoup de pression. Et même les gens qui l'appuient à demi-mot. T'sais. C'est vraiment faible. Donc, au point où il en est, c'est de décider combien de temps il va endurer le supplice de la goutte. On pourrait commencer à sortir notre boule de cristal. Moi, je pense qu'il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir dans les prochains jours. Demain, c'est la dernière journée de la session parlementaire. C'est la journée durant laquelle les partis font les bilans de session. Imaginez le bilan de session des libéraux.
Exactement.
Là, ils vont essayer de nous dire on a des députés qui ont fait tellement du bon travail. André Fortin en santé, Madou Anika qui a fait un tellement bon travail en éducation. Hey, on n'a pas entendu parler de rien de ça parce que c'est la crise du financement de sa campagne qui a pris toute la place et son conflit entre Marois Risky et Geneviève Vince qui finalement là, a parti le bal de cette crise.
Les filles, vous savez comment je suis choyé de travailler avec des personnes comme vous. Il y a Marc qui écrit: j'adore le côté rigoureux de votre émission, particulièrement Antonine, toujours aussi pertinente, et aussi Pascal qui tente toujours d'essayer de voir les deux côtés de la médaille. Ça vous distingue bien des radios plus sensationnelles. Ça fait du bien, continuer. Choyez. Puis là, il y a plein d'autres gens qui disent plus de Pascal, plus d'Antonine, mais plus de Jeff. Non, c'est pas vrai.
Ben là, tu nous lis juste les commentaires gentils pour nous, mais je suis sûr que t'en sois plein.
Je suis très, 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 très choyé de travailler avec vous deux. Merci beaucoup de faire partie de cette belle émission dont on en jase. Je suis privilégié dans la vie. Alors,
ben,
merci.
En fait, on est privilégié d'avoir des micros et d'avoir l'opportunité de pouvoir parler et échanger avec les auditeurs. C'est vraiment un grand privilège. Puis merci d'être au rendez-vous.
Vraiment, Éric qui dit: je seconde la motion. On fait une courte pause. Après la pause, on va parler.
J'adore.
Après la pause, on va parler des médecins. Les médecins omnipraticiens qui auraient une entente avec le gouvernement de la CAQ. Christian Dubé qui dit: non, c'est pas un recul. On va parler de ça avec Antonine Iacarini, François Legault qui a pris une petite marche dans la neige, et Steven Croiteau, notre directeur de la programmation, va venir nous parler des chiffres de ce beau sondage pour Boulevard 102. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.